Introduction à la théologie par le père Philippe à Rimont, le 30 septembre 1992, premier cours.
Alors nous commençons par une introduction. Une réflexion sur ce qu'est la théologie pour nous. Je ne regarde pas ce qu'est la théologie chez tel ou tel théologien d'aujourd'hui, mais ce que je crois, la théologie dans le sens de l'Église, la doctrina sacra. Ceci pour que nous comprenions mieux ce passage des études philosophiques aux études théologiques. C'est évident qu'à Saint-Jean-d'Arc, on fait aussi de la théologie. Dans la théologie mystique. Et c'est bien de commencer par là. De continuer par là. Parce que c'est le point de départ et la fin. On verra ça progressivement. Mais je crois qu'il faut toujours bien comprendre quelle est la finalité de la théologie. Pourquoi on fait de la théologie? Pourquoi l'Église nous demande de faire de la théologie? Pourquoi l'Église nous demande de faire de la philosophie? On ne fait pas de la théologie comme on fait des mathématiques. Surtout pour nous. On fait de la théologie parce que on est homme d'Église ou femme d'Église. Et a fortiori, si on est religieux, on est, je dirais, entièrement donné à Jésus et entièrement donné à l'Église en tant que religieux. On ne s'appartient plus. C'est pour ça qu'un religieux qui fait son œuvre est à côté de la plaque. Alors, ça dure un certain temps, parce qu'on a des réserves, mais très vite, surtout aujourd'hui, ça foire. C'est la petite Marthe Robin dont j'ai lu ce qu'elle avait, elle le disait, avoir reçu du Seigneur. En 1933, avant l'arrivée du père Finet. Elle avait dicté ce que il lui semblait que le Seigneur demandait pour l'Église. Un renouveau par les foyers de charité. Les foyers de charité ont été comme le premier renouveau. Et c'était vraiment un renouveau de manière assez étonnante. Et ce renouveau, c'était de redonner le sens de la paternité. Ça commençait par là. Cette paternité concrétisée dans le père du foyer. Et il s'agissait à ce moment-là de redonner aux des retraites qui soient des retraites de lumière, un enseignement, mais un enseignement qu'on dirait de théologie mystique, un enseignement qui conduise à la contemplation et qui permette la charité fraternelle. Le Seigneur indiquait que si le père du foyer y mettait sa main pour prendre possession de cela, ce serait la destruction de ce que voulait le Seigneur. Vous voyez, c'était dit avec beaucoup de netteté. Père du foyer devait avoir ce sens qu'il ne faisait pas son œuvre, qu'il faisait l'œuvre du Christ et l'œuvre de l'Église. Je crois que lorsqu'on entre en théologie, on doit entrer pleinement dans cette intention. C'est déjà vrai pour la philosophie. Celui qui fait de la philosophie pour lui, c'est fichu. Celui qui fait de la théologie pour lui ne fait plus de la théologie. La tentation est plus subtile en philosophie. Mais pour nous, on fait de la philosophie pour être davantage théologien, un meilleur serviteur, plus pointu quand il faut être pointu, et plus miséricordieux quand il faut être miséricordieux. Toujours les deux extrêmes, fortitaire et suavitaire. Le pointu, c'est le fortitaire. Et le suavitaire, c'est d'être la miséricorde. Alors, c'est capital de comprendre que la théologie, on le fait, la théologie, en serviteur du Christ et de l'Église, sous la conduite de l'Esprit-Saint. Et c'est sous la conduite de l'Esprit. Ce n'est pas notre œuvre. Oui, ça facilite beaucoup, ça. Si c'était votre œuvre, vous devriez choisir quel est le théologien que vous choisissez pour être votre maître. Tant qu'il est choisi d'avance. Et j'ai déjà dit, et je le répète, quelqu'un qui entrerait dans la communauté Saint-Jean en étant opposé à Thomas d'Aquin, n'a qu'à faire ses valises le soir même et partir. Parce qu'il ne peut pas être serviteur de l'Église. C'est l'Église qui nous donne Thomas d'Aquin. C'est l'Église. Et Monseigneur Honoré, que j'ai vu l'autre jour, le répétait. J'aime dans la communauté Saint-Jean qui sont assis à Thomas d'Aquin. Parce que c'est le théologien d'Église. Et il l'a dit devant les jeunes, pas à moi, mais devant les jeunes. Il dit, ici, on enseigne saint Thomas, et c'est très bien, parce que c'est le théologien d'Église. Vous aurez le droit d'ajouter quelque chose, après avoir bien connu Thomas d'Aquin. Dans tous ses replis, on en a pour toute sa vie. Alors n'ayez pas trop vite vos idées originales de théologien. Parce qu'il y a des chances que vos idées originales de théologien soient fausses. Entrez à fond dans la théologie de l'Église. Augustin, les Cappadociens, tous les pères de l'Église, on ne perd jamais son temps à être avec les pères de l'Église. Et de là, la grande montée avec Thomas d'Aquin. s'enracine dans tous les pères de l'Église et dit, lui, quelque chose de nouveau. Alors ne disons pas, à la manière du Père Chenu, que saint Thomas est un révolutionnaire, parce qu'alors c'était le slogan que j'ai entendu plus d'une fois. Ce que saint Thomas a fait de son temps, faisons-le de notre temps. Alors vous voyez la conclusion. Ce que saint Thomas a fait de son temps, essayons-nous d'entrer dans son esprit. Il a été le serviteur de la vérité, le serviteur de l'Église. Et c'est ce que nous devons nous essayer de faire. Ne pas chercher à être original. C'est le grand défaut de notre temps. Nous cherchons la vérité à travers tout. Et nous avons, et nous le verrons du reste, la nécessité d'un maître en théologie. Encore plus qu'en philosophie. Alors, quelle est la finalité de la théologie? Il y a un article dans saint Thomas qui est très fort. C'est pas, vous voyez dans le prologue ce que nous dit saint Thomas. Prologue de la Somme. Il appartient au docteur catholique non seulement d'enseigner les plus avancés, mais aussi d'instruire les commençants. Selon ces mots de l'apôtre, comme à de petits enfants dans le Christ, c'est du lait que je vous ai donné à boire, et non de la nourriture solide. Notre intention est donc, dans cette œuvre, d'exposer ce qui concerne la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. Saint Thomas se fait le maître des débutants. Et vous êtes des débutants. Et lisez la Somme dans cette intention. Nous avons observé, en effet, que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort empêchés, soit par la multiplication des questions inutiles, des articles et des preuves, soit parce que ce qu'il convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre même de la discipline, mais selon que le requiert l'explication des livres ou l'occasion des disputes, soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion. Voilà l'intention de saint Thomas. Serviteur des serviteurs. D'être à notre service. Et nous aider à entrer dans la théologie, dans la doctrine sacra. Désirant éviter ces inconvénients et d'autres souhaitables, nous tenterons, confiants dans le secours divin, de présenter la doctrine sacrée brièvement et clairement, autant que le permettra la matière, en comptant sur le secours divin. Alors, la première question de la doctrine sacrée, qu'est-elle? À quoi s'étend-elle? Alors, il faudrait, vous, dans la mesure où vous avez le temps, pendant aujourd'hui et puis lundi et mardi, et puis entre deux, lire la première question de la Somme. C'est difficile, c'est pas comme... commode et vous notez vos questions. Faut la lire au commencement, parce que si on la lit pas au commencement, ça va pas. Savoir ce qu'on fait, c'est assez abrupt. Alors, ceux qui comprennent rien, demanderont à ceux qui comprennent. N'est-ce pas ? Puisque on peut s'entraider. Et puis vous donnerez vos questions, et vous les donnerez au frère Martin, qui en fera le tri. Donc, si on répond pas à votre question, vous comprenez que c'était pas directement dans le sens voulu. En vue de limiter exactement le champ de nos recherches, nous devons d'abord traiter de la doctrine sacrée elle-même, nous demandant ce qu'elle est et quel est son domaine. À ce sujet, 10 questions se posent. Une telle doctrine est-elle nécessaire ? Voilà la finalité de la théologie. Une telle doctrine est-elle nécessaire ? Est-elle une science ? Est-elle une ou multiple ? Est-elle spéculative ou pratique ? Quel rapport entretient-elle avec les autres sciences ? Est-elle une sagesse ? Quel est son sujet ? Argumente-t-elle ? Doit-elle user de métaphores ou de locutions symboliques ? Les textes de l'écriture qu'elle comporte sont-ils susceptibles de plusieurs sens ? C'est tout le mystère de la parole de Dieu qui est impliqué dedans. Alors, j'ai envie avec vous de lire cette première question, ce premier article, je veux dire, parce que il est très très fort. Saint Thomas commence par les objections, on les verra après. Puis ensuite, le sept contrats. Saint Paul dit, alors voyez tout de suite l'exégèse de la parole de Dieu. Lectio divina sur ce texte. Alors prenez ça comme texte majeur auquel vous reviendrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Saint Paul dit dans l'épître à Timothée, toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Omni scriptura, divinitus, inspirata, utilis est. Elle est utile. Elle est nécessaire. Or, une écriture divinement inspirée n'a rien à voir avec les disciplines philosophiques, qui sont œuvres de la raison humaine. C'est donc qu'une autre doctrine, celle-là d'inspiration divine, a bien sa raison d'être. Donc, tout de suite, saint Thomas souligne que la philosophie ne suffit pas aux croyants. Qu'il y a une place nécessaire à la théologie. Première sagesse, la philo. La philo, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est important. Mais il y a une autre connaissance qui nous est donnée par la révélation. Donc, on entre dans le domaine de l'écriture inspirée. Alors, après ce fameux texte, qui nous montre que l'écriture inspirée à laquelle on croit par la foi nous donne un champ nouveau de réflexion. Et ce champ nouveau de réflexion, c'est le champ de la théologie. Et comme c'est vaste, hein, la lectio divina, c'est de la théologie. Autrement, ça veut dire que vous dormez. La lectio divina, c'est de la théologie. C'est une réflexion sur l'écriture. Toute réflexion sur l'écriture fait partie de la théologie. Vous voyez, c'est très très important de voir ça. Parce que ça montre que la foi ouvre un champ nouveau de réflexion. La foi doit réveiller l'intelligence en l'actuant. Si je suis croyant, je suis plus actué dans mon intelligence qu'un incroyant. Je suis actué vers un nouveau domaine, un domaine divin, un domaine de vérité divine. Vous voyez, c'est ça qui est beau dans un domaine, parce qu'on montre que la théologie, c'est pas un système. C'est l'intelligentsia à la fois. Et c'est pour ça que le philosophe, qui a une intelligence un peu développée, normalement, et qui est croyant, va mettre tout de suite toute son intelligence philosophique au service de la foi. Et on sera en présence de la théologie. Vous savez bien comment la théologie est née. Tu seras intéressant par ça. C'est les pères de l'Église, nos maîtres, les premiers croyants, qui, en lisant l'écriture, s'aperçoivent qu'il y a des affirmations qui semblent contradictoires. Jésus dit, quand on vous donne une bonne gifle à droite, présentez l'autre joue à gauche. Donc, tu es chrétien, si tu acceptes une gifle à côté, l'autre gifle à côté. Et quand Jésus est en face des grands prêtres, qu'on lui donne une gifle, un serviteur, Jésus ne présente pas l'autre joue. Il dit, pourquoi me frappes-tu? Donc, c'est contradictoire. Or, les deux sont paroles de Dieu. Si les deux sont paroles de Dieu, ben, il n'y a pas de contradiction. Ça vient du même auteur. L'Esprit Saint ne peut pas me tromper. Alors comment ? Et c'est les questions qu'on vous pose encore maintenant, puisque beaucoup de chrétiens et beaucoup d'autres lisent l'Écriture, les témoins de Jéhovah, qui paraît-il sont très très fervents dans le diocèse. À Fribourg, je me souviens, il y avait un petit cours de philosophie dit populaire le soir. Je fais beaucoup ça. Première séance, quelqu'un s'est levé et qui me dit, il est habillé en cette nuit d'ouvrier, et dit, tu es chrétien? Je dis oui. Et j'ai répondu, et toi? Oui. Ah bon, donc on peut s'entendre. Si tu es chrétien, tu ne dois pas chercher la sagesse humaine. Saint Paul nous dit que tout ça, ça est vain. Alors je dis, si tu es chrétien, tu dois être intelligent pour le Christ. Non, pas besoin. Ah, donne-moi le texte. Voyez, on doit pouvoir répondre à toutes les objections qui nous sont posées. Aujourd'hui, où l'écriture est lue beaucoup plus qu'avant. Et c'est le théologien qui donne l'exégèse de l'écriture. La théologie est une exégèse de l'écriture. C'est une explication d'écriture. On doit montrer qu'il n'y a pas de contradiction dans l'écriture. Et les pères de l'Église disaient, toute parole de Dieu est un silex. Si je frotte une parole à côté d'une autre parole, ces paroles semblent contradictoires. Je les frotte l'une contre l'autre, de là jaillit une étincelle. Et cette étincelle, c'est la théologie. Vous voyez, c'est ça qui est très beau. Le texte de l'Écriture vient directement de l'Esprit-Saint, en passant par un intermédiaire, un instrument. Et c'est la parole de Dieu. Saint Jean pouvait être inspiré pour donner son évangile, mais il pouvait très bien écrire aussi des lettres à tel ou tel. Et il ne disait pas parole de Dieu. Il signait Jean. Le Saint-Père, quand il parle au nom de l'Église, signe. En tant qu'il parle au nom d'Église, et quand il proclame la sainteté de tel homme, de telle femme, il agit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Quand il donne une encyclique, et que cette encyclique est conforme à tout l'enseignement de l'Église, et quelquefois en explicitant telle ou telle chose, il agit encore sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Pas de la même façon. Il faut donc pouvoir expliquer l'infaillibilité du pape. C'est quand même important. Je me souviens, là encore, petit événement particulier, de ce pasteur de langue française, en Suisse, que je connaissais pas, tape à la porte. On m'avait averti qu'il y avait quelqu'un qui montait. Et puis il me dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais je vous pose une question. Croyez-vous en l'infaillibilité du Saint-Père quand il parle au nom de l'Église universelle? Alors je dis oui, parce que je suis catholique. Alors il dit, ah, alors je peux entrer. Je viens de faire cette expérience à tel. J'aurais posé la même question qu'à vous. Ils ont dit, ah, il faudrait distinguer. Alors j'ai refermé la porte, vous n'êtes pas catholique. Je veux parler à un catholique. Mais c'est terrible hein, de fermer la porte à quelqu'un qui cherche la vérité. Et pourquoi on a fermé la porte? Parce que on a mis des distinctions là où il ne fallait pas. L'affirmation du dogme et de la parole de Dieu n'implique pas de distinction. C'est dans l'application. C'est dans l'usage. Le théologien est gardien de la parole de Dieu. Au nom de l'Église, puisqu'il est serviteur de la parole de Dieu. Donc il est gardien. Le premier rôle, c'est d'être gardien. C'est d'aimer la parole de Dieu. Et ne pas tolérer qu'on diminue la signification de la parole de Dieu. diminué. Les hommes ont diminué la vérité. C'est dans le psaume. Je n'ai pas le droit de diminuer le sens de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui ne va pas si on fait ça. C'est quelque chose qui est faux. Je dois au contraire, en face de mauvaises interprétations de la parole de Dieu, dire ces interprétations sont fausses. Voyez, aujourd'hui, c'est très très important de comprendre que le théologien, c'est l'homme de la parole de Dieu. Et donc, il sait que la lectio divina, c'est de la théologie. Qu'est-ce que vous faites dans la lectio divina? Vous essayez de comprendre la parole de Dieu, pour vous, de l'appliquer à vous, de l'appliquer à votre vie. Et pour cela, en comprendre le sens le plus profond, c'est la théologie. Alors, c'est ça que saint Thomas veut nous faire comprendre. Ah, voici le corps de l'article. Il a été nécessaire, en effet, pour le salut de l'homme, qu'il y eut, en dehors des sciences philosophiques, que scrute la raison humaine, une doctrine différente, procédant de la raison divine, de l'intelligence divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. Car, dit le prophète, l'œil n'a pas vu, ô Dieu, en dehors de toi, ce que tu as préparé à ceux qui t'aiment. Or, ne faut-il pas qu'avant de diriger leurs intentions et leurs actions, vers une fin, les hommes connaissent cette fin. Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses dépassant sa raison lui fussent communiquées par révélation divine. La nécessité de la théologie est la même que celle de la foi. Ça, c'est fort. C'est tellement fort que des candidats ne comprennent pas. Il n'y a pas de nécessité de la théologie en dehors de la foi. Ça, il faut que vous soyez convaincu de ça. Si vous ne l'êtes pas, ressortez toutes vos objections. Pour que vous en soyez convaincu. Et que vous fassiez la théologie en croyant, c'est-à-dire en entrant à fond dans le point de vue de la nécessité de la foi. Je vous ai rappelé au début de la retraite, ceux qui ont suivi la retraite, cette parole si forte de saint Thomas, quand il commence à parler de la foi et de la nécessité de la foi. La foi est nécessaire pour nous orienter à la vision béatifique. La théologie est nécessaire pour nous orienter à la vision béatifique. Deuxième raison. À l'égard de ce que la raison était capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait aussi que l'homme fût instruit par révélation divine, car une connaissance de Dieu obtenue par la raison n'eût été le fait qu'un petit nombre de métaphysiciens, de philosophes. Elle eût coûté beaucoup de temps et se fût mêlée de beaucoup d'erreurs. De la connaissance de sa vérité, cependant, dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. Combien donc n'était-il pas nécessaire, si l'on voulait que ce salut fût procuré aux hommes de façon plus commune et plus certaine, que ceux-ci fussent instruits par une révélation divine? C'est aussi très beau ça, et très exigeant, et très fort. La révélation est nécessaire, même à l'égard de l'existence de Dieu. Même à l'égard de l'immortalité de l'âme. parce que c'est si difficile de découvrir ces vérités. Et pour découvrir ces vérités le plus rapidement possible, il est nécessaire qu'il y ait la révélation. Il est nécessaire qu'il y ait la théologie. C'est la nécessité de la doctrine sacrée. Pour toutes ces raisons, il s'imposait qu'il y eut, en plus des disciplines philosophiques, œuvre de la raison, une doctrine sacrée acquise par la révélation. Alors, petite note, je vous lis. Outre les disciplines philosophiques, une autre discipline est nécessaire. La réponse évidemment affirmative invoque ces deux motifs. L'élévation de l'homme à une fin qui dépasse notre raison. À une fin qui dépasse notre raison, appelle une révélation divine. Conditionnant une doctrine du même caractère. Je ne dis pas conditionnant, déterminant. La foi ne conditionne pas la théologie. Ce n'est pas tout à fait juste. C'est notre cher père Chenu qui dit ça. C'est pour ça qu'on a le droit de le corriger. C'est le père Gardeil et le père Chenu. Conditionnant une doctrine du même caractère, cette révélation divine imposée d'une nécessité de convenance, même pour la vérité, accessible à la raison et dont le salut dépend. Cette double conclusion est parfaitement claire, ce qui n'empêche qu'elle ne pose en profondeur bien des problèmes. Ah, c'est ça qui m'intéresse, hein. Tous ceux de la portée et de la capacité de la raison, ainsi que de ses rapports avec la connaissance de la foi. Sur ce sujet, on peut lire au Contrat Gentiles les chapitres 4 et 5. Parallèlement, saint Thomas, traitant de la vertu, se posera la question de la nécessité de la foi, tant à l'égard des vérités qui dépassent la raison que celles qu'elle peut atteindre. Croire quelque chose au-dessus de la raison naturelle est-il nécessaire au salut? Est-il nécessaire de croire ce qui peut être prouvé par la raison? Les conclusions sont les mêmes partout. On retrouve présenté dans un beau texte, l'article 4 de la Seconda Seconde, les trois motifs. Rapidité d'information, accès universel. Sécurité alléguée dans le corps du présent article. Mais c'est toujours les trois raisons que pense saint Thomas. La rapidité d'information. On met beaucoup de temps avant d'être un métaphysicien. Accès universel. Peu de personnes peuvent le faire. Sécurité, c'est qu'il reste toujours une insécurité. Du moins, il peut rester une insécurité. Alors vous voyez, c'est très fort que saint Thomas donne les mêmes motifs pour la nécessité de la foi et la nécessité de la doctrine sacrée. Alors ça peut nous scandaliser, nous. Hein. Ça peut nous scandaliser, quand même. Non, la théologie, c'est pas la même chose. Il suffit d'avoir la foi pour saint Thomas, non. Il parle au nom de l'Église, en théologien. Il est nécessaire que dans l'Église, il y ait une théologie. À cause de la foi. Saint Thomas ne veut pas dire que tout croyant, comme croyant, doit nécessairement acquérir la doctrine sacrée. Ça, c'est la foi individuelle. Là, il parle au niveau de la foi par rapport à l'Église. crois qu'il ne faut pas oublier ça. Si l'Église nous demande d'être théologien, c'est parce que la théologie est nécessaire à l'Église. En faisant de la théologie, vous devenez le serviteur le plus indispensable pour l'Église. Vous devenez le serviteur auquel l'Église demande de faire ce qui est indispensable pour elle. L'Église ne peut pas vivre sans théologien, sans doctrine sacrée. Et vous comprenez pourquoi? Parce que précisément, la foi est une connaissance obscure. Elle a besoin d'être défendue. Elle a besoin d'être expliquée. Parce que la foi est une connaissance imparfaite, comme connaissance. Alors, je regarde maintenant tout de suite les objections. C'est pour ça que cet article premier, il est si fort. Vous voyez, je ne fais pas de la théologie comme un individu. Tandis que je fais de la philosophie comme une personne individuelle. Je fais de la théologie au nom de l'Église. Et pour enseigner la théologie, il faut un mandat de l'Église. Je peux évidemment, dans un petit cercle, en tant que laïque, en tant que croyant, enseigner. Mais ce n'est pas l'enseignement vraiment de la doctrine sacrée. Tandis que ce que je vous fais, c'est au nom de l'Église. Avec un mandat d'Église. Et l'Église peut retirer ce mandat si je disais et j'affirmais des choses qui étaient contraires à l'enseignement d'Église. C'est ce qu'elle a fait pour Hans Kuhne. L'Église a déclaré, vous n'êtes plus un théologien d'Église. On est théologien de l'Église. On n'est pas du tout théologien à titre particulier. Ah, ça me goûte. Ah, moi, ça ne me goûte pas. Mais non. C'est quoi ? Serviteur. Laver la vaisselle, ça vous goûte ou pas ? Quand elle est sale. C'est vrai. On la lave quand elle est sale. Quand elle est propre, c'est pas la peine. On est serviteur. Le serviteur, on ne lui demande pas si ça goûte ou ça ne goûte pas. Le serviteur, on lui demande de faire ce qu'il doit faire. On fait de la théologie comme serviteur de l'Église. Oui, c'est très très important. Parce qu'on est tellement individualiste. Vous voyez, la philosophie, si on fait vraiment de la philosophie, on la fait comme recherche de la vérité. Donc, on l'a fait comme personne individuelle pour les hommes, pour l'humanité. Il faut que dans l'humanité, il y ait des philosophes. Mais ce n'est pas tout moi-même qui est pris comme serviteur. Quand on enseigne la philo et la théologie, on voit très bien toute la différence. Un enseignement de philosophie, je suis libre. Si je peux montrer que mon enseignement atteint la vérité. Alors je suis complètement libre. Je n'ai aucune autorité dont je dépends, si ce n'est la vérité, qui n'est pas une autorité, qui est le bien de mon intelligence. C'est le bien de mon intelligence. En théologie, je suis dépendant de l'Église.
la théologie par le père Philippe Arimon le 30 septembre 1992, deuxième cours.
Je continue. On répondra aux questions après. Mais n'hésitez pas à en donner, mais on les verra progressivement. Alors, je termine en regardant la réponse aux objections. On ne voit pas tout d'abord, c'est l'objection. Pourquoi faire effort, en effet, vers ce qui dépasse la raison humaine? Et ça, c'est l'homme fatigué, hein, vous voyez. Théologien, je crois que ça se rencontre. Hein. Je me souviens, c'est constamment des gens qui n'aiment pas du tout la théologie. Ça les trouble. Je me souviens, ce médecin, très saint homme à Fribourg, qui au bout de plusieurs conférences théologiques, me disant, je ne viens plus, ça me trouble. J'aime mieux une foi toute simple, je ne comprends rien, ça n'a pas d'importance. Et c'est tout à fait cette objection-là, vous voyez. Pourquoi faire effort, en effet, vers ce qui dépasse la raison humaine? Ne cherche pas plus haut que toi, nous dit l'ecclésiastique. C'est évident. Et là encore, je peux prendre cette parole de l'ecclésiastique qui est très très nette. Hein. Te dépasse pas, quoi. Prends les choses qui sont à ta portée. Ne crois pas que tu es plus intelligent qu'un autre. Or, ce qui est à portée de la raison nous est communiqué de manière suffisante dans les disciplines philosophiques. Il paraît donc superflu de recourir à une autre doctrine. Réponse au saint Thomas. Il est bien vrai qu'il ne faut pas chercher à scruter au moyen de la raison ce qui dépasse l'humaine connaissance. Mais à la révélation qui nous est faite par Dieu, nous devons accorder notre foi. Aussi, au même endroit, est-il ajouté, beaucoup de choses te sont montrées qui dépassent la compréhension humaine. C'est dans ces choses que consiste la doctrine sacrée. Oui, c'est intéressant parce que saint Thomas répond au texte par un texte, la nécessité de la théologie. Oui. Si vous prenez deux textes qui peuvent paraître contradictoires, comment expliquer cette espèce de contradiction? C'est que dans la foi, il y a ignorance, il y a appel à la connaissance. Puisque c'est un désir d'atteindre la vérité première. D'où la théologie nécessaire pour expliciter. Mieux comprendre. Alors, deuxième objection. De plus, il n'y a pas de science. Il n'y a de science que de l'être. Doctrina non potesse sinisidente. On est au Moyen-Âge. Vu que l'on ne peut avoir de connaissance que du vrai, et que lui-même se convertit avec l'être. Or, dans les disciplines philosophiques, on traite de toutes les parties de l'être et même de Dieu. D'où vient qu'une branche de ce savoir est appelée théologie ou science divine, comme le montre Aristote en métaphysique. Il n'est donc point nécessaire d'ajouter aux disciplines philosophiques une autre discipline. La philosophie dit tout. De omnire scibili. De toute chose intelligible. Réponse de saint Thomas. Une diversité de raisons ou de points de vue dans ce que l'on connaît détermine une diversité de sciences. Donc la diversité des raisons formelles engendre une diversité de sciences. Ce n'est pas la réalité qui détermine une diversité de sciences. Ce sont les raisons formelles. Toujours se rappeler ça. Ainsi, est-ce bien une conclusion que démontrent l'astronome et le physicien, mais le premier utilise à cette fin un moyen terme mathématique, c'est-à-dire extrait de la matière, tandis que le second en emploie un qui s'y trouve impliqué. Rien n'empêche donc que les objets mêmes, que les réalités mêmes dont traitent les sciences philosophiques, selon qu'elles les connaissent, selon qu'ils sont connaissables par la lumière de la raison, puissent encore être envisagés dans une autre science, selon qu'ils sont connus par la lumière de la révélation divine. La théologie comprise dans la doctrine sacra est donc génériquement différente de celle que l'on démontre parmi les parties de la philosophie. Ça va de soi. Alors, nous continuons. Ceci, c'est pour montrer de la nécessité de la théologie. Nécessité au niveau de l'Église, gardienne de la foi. Je suis, en tant que théologien, je fais partie de l'Église. Je suis serviteur de l'Église. Évidemment, la théologie m'apporte quelque chose. Un bon serviteur sert un maître. Et en servant le maître, il se développe. En servant l'Église, je développe mon intelligence. Et je développe mon intelligence au service de ma foi. Donc, c'est la même chose de dire que la théologie est nécessaire pour l'Église et nécessaire pour moi. Puisque, en tant que croyant, je suis serviteur de l'Église. La nécessité de la théologie se ramène à la nécessité de la foi. Et ça, il faut bien comprendre ça. C'est capital. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie ? C'est mettre au service de la parole de Dieu mon intelligence humaine. C'est ça la théologie. La théologie est toujours un fruit qui présuppose la foi, qui demeure dans la foi, qui ne dépasse jamais la foi. Je dis ça pour la théologie hegelienne. Qui ne dépasse jamais la foi, qui demeure dans la foi, mais qui met au service de la parole de Dieu mon intelligence. Alors, vous voyez, c'est là le gros problème. Point de vue critique. Comment mon intelligence, qui reste une intelligence humaine, peut-elle être au service de la parole de Dieu, qui est une parole qui a une signification infinie ? Ça, c'est la grosse objection que vous rencontrerez tout le temps, qui est très actuelle. Parce qu'actuellement, des quantités de théologiens sont fidéistes. Et en tant que fidéistes, ils disent que l'intelligence humaine n'a rien à voir avec les vérités de foi. Puisque d'un côté, je suis en présence d'une connaissance qui a une certitude infinie, et d'autre côté, je suis en face d'une connaissance finie. Ouais. Donc, au fond, votre théologie diminue le sens de la parole de Dieu. Alors, voyez, c'est toute la question de savoir si la théologie est science ou si elle est sagesse. théologie n'était que science, ce serait tout à fait juste de dire que toutes les conclusions théologiques sont moindres que la foi. Donc, pauvre théologien, il vit dans un domaine moindre que la foi. La foi me permet d'être dans les altitudes. La théologie me met dans la vallée. Et je suis toujours dans la mer de nuages. Vous voyez bien. Faites ce petit schéma très simple à comprendre. La foi me met au niveau de l'inspiration divine. Donc, elle me met en face de l'infini. D'une science infinie, d'une connaissance infinie. Connaissance infinie de Dieu qui m'est révélée. La théologie, science, me met en face de conclusion. De conclusion qui ne sont plus au niveau de la foi, qui sont moindres que la foi, puisqu'il y a une mixture. Donc, ils sont finis. Puisqu'elles impliquent le mode humain. On verra comment la théologie est science. Il voit très bien cet obstacle. Et je crois que vous le comprenez. Donc, il y a deux grandes questions à voir. La théologie est-elle possible? Comment le fini peut coopérer à l'infini? Deuxièmement, elle n'a aucun intérêt, puisqu'à la place de rester dans l'infini, elle me met sur le fini. Donc elle diminue tout. C'était la question très habilement posée que j'ai entendu plus d'une fois quand j'enseignais chez les Dominicains et quand j'étais étudiant chez les Dominicains. Comment se fait-il qu'un novice ait plein de ferveur et qu'au bout de quelques années de théologie, on a des étudiants de théologie qui ont beaucoup moins de ferveur? Ce qui veut dire, on a celui qui entre dans l'Église et qui est très fervent parce que c'est l'Église et que le Christ est là présent. Et puis le sacristain, qui est très habitué à être dans l'Église, alors il fait des géniflexions pas très édifiantes. L'Église est son lieu, les sacristains. Alors, est-ce que le théologien, c'est le sacristain de la parole de Dieu, qui, au fond, la théologie, à la place de l'aider, fait juste l'inverse? C'est un fait. Alors que les théologiens devraient être beaucoup plus fervents que les novices. Vous voyez? Et c'est vrai, il faut constater ça. Alors vous savez, il y a une réponse qui est commune. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Un tout petit peu de théologie me fait sacristain. J'ai les clés. Une théologie très approfondie me rapproche. Alors pourquoi passer par ce tunnel? Alors, je vais essayer de répondre à ces deux questions. Parce que je crois que c'est important. Premièrement, la théologie est nécessaire. Parce que la foi, ma foi, se donne par le mystère de la parole de Dieu. C'est le mystère de la parole de Dieu qui me fait comprendre la possibilité de la théologie et sa nécessité. Si Dieu me donnait la foi uniquement par une inspiration intérieure, ce serait possible. Dieu peut communiquer à des saints des paroles intérieures. Il a communiqué à Jeanne d'Arc des voix. Jeanne d'Arc ne pouvait pas faire la théologie de ses voix. Impossible. Tandis que je peux faire la théologie des prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que Dieu se révèle à nous en se servant de la parole humaine. Tandis qu'à Jeanne d'Arc, il s'est servi d'elle par l'intériorité pure. Dieu pourrait très bien illuminer mon intelligence uniquement de l'intérieur. Ça me pourrait adhérer au mystère de Dieu sans la médiation de la parole de Dieu. Je crois que ça, c'est capital de comprendre ça. C'est un fait. Dieu se révèle à moi par la parole.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que la foi n'est pas une certaine illumination intérieure, en partie?
La foi implique une illumination, mais par la parole.
La foi passe forcément par la parole
Quoi?
De Dieu. La foi passe forcément par la parole de Dieu.
C'est évident.
Je pense
vous ne pouvez jamais quitter la parole de Dieu.
Les enfants qui ont la foi, c'est par l'Église, donc. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu immédiatement.
Mais les enfants qui ont la foi... Quand un enfant se met à parler et demander l'Eucharistie, avant, qu'est-ce qu'il dit? Il fait au nom du Père, c'est sa mère qui lui enseigne. Au nom du Père et du Fils, c'est quand même la parole de l'Église. C'est par la parole. Oui. Alors, vous pouvez dire, ceux qui sont incapables de parler, mais ils ont entendu la parole. Ils ont été enseignés. Les petits-enfants, emmenés par une louve, sont à quatre pattes. Ils marchent à quatre pattes comme la louve. Ils aboient comme la louve. On n'en a jamais vu qui disait à la louve, j'ai la foi, toi tu ne l'as pas. Mais ma foi humaine passe par la parole de Dieu. Et je ne peux jamais quitter la parole de Dieu. Comme je ne peux jamais quitter l'humanité sainte du Christ.
Et que dire alors de l'expérience d'André Froissart? Vous savez, il dit qu'il n'avait reçu aucune éducation chrétienne, il était dans un milieu complètement athée,
oui,
ou agnostique, et vous savez, il est entré dans cette église, et
oui,
il est ressorti, il a dit, je suis catholique.
Je crois, mais oui.
Oui, sans même savoir en quoi consistait.
Mais il y avait l'église.
Mais il n'y avait pas eu
l'annonce de la parole de Dieu. Mais ça peut rien, il y a l'église. L'église est une annonce de la parole de Dieu. C'est un témoin. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit des églises. C'est sûr. Dieu lui a parlé dans l'église. C'est quand même très curieux. Il aurait pu lui parler chez lui. Non. Claudel, derrière une colonne. Paul, pourquoi me persécutes-tu ? La parole est là.
Pour revenir à ce que disait le frère Philippe Joseph, quand un enfant est baptisé à deux jours, il n'a pas entendu la parole.
Bien, c'est le baptisé. C'est pour ça qu'il était parrain. Le parrain, c'est ça. Oui, c'est l'Église, ça. C'est l'Église qui anticipe. Elle a le droit d'anticiper. Elle est mère. Une mère anticipe. C'est le rôle maternel de l'Église, ça. Oui. Et c'est pour ça que quand on refuse le baptême des enfants, on refuse le rôle maternel de l'Église. Le baptême des enfants. On dirait qu'il faut qu'ils soient adultes, qu'ils choisissent. Pas du tout. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et c'est l'Église qui reçoit. Oui. Que les dons du Saint-Esprit nous fassent aller jusqu'au mystère. Et on ne nie pas la parole. Celui qui nierait la parole, c'est-à-dire moi, je suis illuminé et je ne vis que du mystère. La parole, non. On dirait, c'est pas du Saint-Esprit. Vous voyez ? C'est pas du Saint-Esprit. La foi, de fait, ma foi chrétienne est liée à la parole de Dieu. Alors, il peut y avoir un mode très particulier de Dieu qui agit d'une manière charismatique. Il agit d'une façon charismatique, donc il y a des gestes, quand même. Il y a la présence d'autres. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux, puisque votre exemple, ce jeune dominicain dont je parlais, qui avant était marxiste, fils de marxiste, petit-fils de marxiste. Il n'avait jamais, il vivait en dehors de l'Église. Bien beau jour, il se met à genoux. Ce qui est très curieux, c'est que immédiatement après, ressent cette grâce, il faut que je voie un prêtre. C'est quand même curieux. Oui. Et pour ça, c'est la même chose. Il faut m'ouvrir après. Donc, il y a la parole. Même si, au fond, sa foi restait encore imparfaite dans une illumination intérieure, elle n'excluait pas la parole. Et elle était en attente de la parole. En attente d'un enseignement. Oui. J'ai jamais vu un converti un authentique converti qui refusait l'enseignement. Vous voyez ? Donc qui refusait cette médiation de la parole. Et s'il avait refusé l'enseignement, on dirait ça doit être imaginatif votre truc. Votre conversion. Vous voyez ? Donc c'est vrai que l'Esprit Saint, lui, est libre de la parole, mais pas moi. Puisque Dieu a voulu me donner la foi à travers la parole. Mais l'Esprit Saint est libre comme il est libre des sacrements. Il est au-dessus des sacrements, il est au-dessus de la parole, puisqu'il est l'auteur de la parole. Donc il en est libre. Et donc il peut très bien secouer quelqu'un uniquement intérieurement, sans lui donner aucune parole. Ce que je crois rare. Vous voyez, quand je vois Claudel, il faudrait regarder de très près ce qu'il dit. Mais ordinairement, vous voyez, le père de Ratisbonne, je l'ai vu, c'était Marie, la présence de Marie. Bon, tu vois-t-il, il peut y avoir ces cas où on peut se poser la question, mais pour nous c'est net, et pour tous les chrétiens c'est net. La parole de Dieu joue ce rôle déterminant dans leur adhésion de foi. C'est par la parole de Dieu qu'ils adhèrent au mystère. L'adhésion de foi ne se termine pas à la parole, mais au mystère, signifié par la parole. Alors c'est en ce sens-là, vous voyez, vous pouvez dire que l'Esprit Saint peut donner une adhésion directe au mystère, demandant après qu'on s'instruise par la parole. Ça veut dire pas de difficulté. Si l'adhésion de foi était uniquement à la parole. Alors, on ne comprendrait pas. Mais l'adhésion de foi se termine au mystère par la parole. La parole est une médiation. Dieu se sert de la parole humaine. Cette parole humaine a donc deux significations. Elle a une signification divine et humaine. Donc, au niveau de la signification. Signification humaine, puisque Dieu n'a pas inventé un langage. Il se sert de la parole de son instrument, du prophète. Il parle en grec. Il parle en araméen, il parle en hébreu, il parle en latin. Et maintenant le Saint-Esprit aime la langue vulgaire. Vous voyez, il a fait des progrès. C'est vrai. Que ça a toujours été comme ça. Toujours eu ce souci pour les croyants de parler leur langue et de recevoir le message de Dieu selon la langue classique de l'Église. Hébreu, grec, latin. C'est vrai, les langues classiques, premières. Alors, il y a donc une signification humaine et il y a une signification divine. Puisque cette parole me conduit de fait à adhérer au mystère. Donc deux significations. Ça, c'est net. Signification humaine. Fini. Dieu est Père. Signification de foi qui adhère au mystère. Signification infinie. Il y a donc, à travers la parole de Dieu, la possibilité de comprendre que la signification de cette parole humaine peut s'ouvrir à l'infini. Et ceci est donné directement dans un acte de foi à la parole de Dieu. Mais c'est parce que Dieu se sert de la parole humaine que la théologie est nécessaire. Qu'elle est possible et qu'elle est nécessaire. Qu'elle est possible parce que la parole dont Dieu se sert est une parole humaine. Si Dieu avait employé un langage propre, reçu au baptême d'une façon charismatique. Ça aura un grand avantage, c'est qu'on reconnaîtrait tout de suite ceux qui sont baptisés. Mais un signe caractéristique, comme pour les francs-maçons, un signe caractéristique, on se comprend. Pas besoin de dire qu'on fait un petit signe. On est de la famille. Dieu n'a jamais fait ça. Aucun geste. Ah. Sauf le signe de la croix. Sauf la circoncision. Oui. Mais ce sont des signes, c'est vrai, que les hommes peuvent faire. Dieu s'en sert divinement. Donc il n'y a aucun signe propre qui émane directement de l'inspiration que Dieu nous donne comme croyants. En tant que croyant, je ne parle pas d'une une langue nouvelle. Je parle de ma langue. et Jésus a parlé la langue maternelle de Marie. Et s'est servi de la langue maternelle de Marie pour nous communiquer ses secrets propres. Alors, du fait même que Dieu se sert de cette langue humaine qui a une signification finie, et du fait même qu'il s'en sert, elle est ouverte au mystère. Il y a le passage du fini à l'infini. S'il y a le passage du fini à l'infini, il faut expliquer ça. Et là intervient la connaissance philosophique pour me faire comprendre que dans certains cas, la parole de Dieu a un mode symbolique et que dans d'autres cas, la parole de Dieu a une signification propre. Je ne peux faire cette distinction que si j'ai une connaissance philosophique du langage humain. Je crois que c'est cela qui me montre la nécessité, la possibilité de la théologie et la nécessité de la théologie. La possibilité, si Dieu n'avait pas, s'était pas servi de la parole. Et les pères de l'Église, hein, faut pas l'oublier, les pères de l'Église considèrent que si Dieu s'est servi de la parole, c'est en vue de l'incarnation. C'est pour nous montrer que la lumière de Dieu s'incarne dans le langage humain. Et c'est pour ça que les pères de l'Église ont toujours fait ce parallélisme entre, d'une part, le point de vue de la parole de Dieu, le mystère du Verbe incarné. Le Verbe est devenu chair. Et la chair du Christ est semblable à la nôtre. Et la parole dont se servit est la même que la nôtre. L'incarnation aurait pu être faite par un homme unique, cyclope, un seul œil. Ça aurait pu être fait comme ça. Non. Tous les moments d'humanité, jusque 33 ans. Pas besoin de la vieillesse. C'est aussi quelque chose de curieux. Hein. Jésus n'a pas incarné la vieillesse. Pauvre vieillesse. Il a incarné l'enfant, l'adolescent, l'homme mûr. Puis après, fini. Il a laissé Marie, qui a quitté la terre, nécessairement plus âgée que Jésus. C'est un fait, ça. Mais voyez, Dieu s'est servi de la parole en vue de l'incarnation. Et parce qu'il s'est servi de la parole, il y a possibilité d'une théologie. Et il y a nécessité d'une théologie. Possibilité, parce que ce langage humain, je dois en connaître toutes les significations. Nécessité pour comprendre mieux cette révélation, comprendre ce qu'il y a de symbolique dans cette révélation et ce qu'il y a de propre dans cette révélation, les deux significations. Oui, alors ça c'est très important parce que ça me fait comprendre justement, cette nécessité d'entrer, de mettre mon intelligence au service de la foi, à cause de la parole. S'il n'y avait pas la parole, mon intelligence n'aurait pas de réalité à connaître. Elle n'aurait pas d'objet à connaître. avec la parole de Dieu. La parole parle à mon intelligence. Elle vient d'intelligence et elle est faite pour l'intelligence. Et donc je peux la recevoir avec mon intelligence et essayer d'en saisir toute sa signification. Et la théologie n'a pas d'autre rôle que de saisir toute la signification de cette parole de Dieu qui m'est donnée. Cette parole de Dieu m'est donnée pour que je la comprenne mieux, que j'en saisisse toute sa signification, toute sa plénitude. Alors, à partir de là, je vais préciser que la théologie va donc avoir des rôles divers. Un rôle de préciser le sens de la parole de Dieu gardée par la tradition et montrer que les hérésies quittent ce sens. Le théologien est défenseur de la parole de Dieu, gardien de la parole de Dieu, en face de toutes les erreurs d'interprétation de la parole de Dieu. Et pour ça, il faut qu'il ait un sens profond de la parole de Dieu. Et qu'il explique comment on est arrivé à ces erreurs. Ce qui est toujours plus charitable pour celui qui est tombé dans l'erreur. À quel moment il y a eu des confusions? La théologie est d'abord née pour défendre la vérité révélée. Pour défendre la parole de Dieu. La théologie va impliquer aussi une explicitation de la parole de Dieu. Montrer comment je dois comprendre la parole de Dieu. Et comment je peux la communiquer plus facilement. Mais tout ça fait partie de la nécessité de la théologie et la finalité de la théologie. Je suis théologien pour défendre la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je suis en face d'une exégèse qui me paraît fausse, dire l'évangile de Jean est écrit par Lazare. Bon, le théologien doit pouvoir montrer qu'une affirmation comme celle-là est toute gratuite. Donc, très bien, si vous voulez, vous, c'est contraire à toute la tradition d'Église. Et ça ne repose sur rien. Il n'y a aucun argument qui permet de dire que l'évangile de Jean n'est pas saint Jean. Aucun. Il faut de temps en temps, oui, faire ça pour soi-même, parce que pour après, c'est nécessaire. Être un gardien de la parole de Dieu. Et deuxièmement, expliciter toute la richesse et la profondeur de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu a des sens infinis. Que la parole de Dieu n'est plus une parole humaine. Donc les erreurs qui peuvent exister dans la parole humaine n'existent plus dans la parole de Dieu. Et donc, que la parole de Dieu est véhicule d'une certitude absolue. Et en ce sens-là, la parole de Dieu a une profondeur et une qualité unique.